Alors, nous reprenons notre série sur le paysage chrétien, l'environnement du chrétien. On avait expliqué que une des difficultés que l'on rencontre dans l'Église, c'est la surprise de voir qu'il y a des problèmes. Donc c'est une des difficultés. Quelqu'un se convertit et dans sa tête, il pense que l'Église va être un endroit où tout le monde est bon, tout le monde est droit et que peut-être il est le seul à avoir besoin d'aide. Mais quand il vit un certain nombre de temps, il se rend compte que ben, c'était pas ça. Et ça peut freiner. Il y en a qui peuvent retourner dans le monde, mais il y en a aussi qui peuvent accepter de devenir comme les autres, dans leurs défauts, en se disant que c'est comme ça, et ça aussi, ce n'est pas bon. Et il y en a d'autres qui peuvent diminuer dans l'amour de la vérité à cause de tout ça, en se donnant des justifications, puisque les autres sont mauvais, moi aussi, j'ai le droit d'être un peu mauvais. Et il y en a encore qui vont être, à cause de ça, utilisés par le diable pour freiner davantage l'Église, parce qu'ils vont vouloir se venger, ils vont vouloir critiquer comme les autres, ils vont vouloir faire comme les autres d'une certaine manière, et ça va être aussi un frein. Donc le but de cette série d'enseignements, c'est nous aider à rester fermes dans la vérité, à aimer la vérité et à être déterminés à défendre la vérité jusqu'au bout, dans l'amour, ne cédant pas à cette pression-là qui peut nous entourer. Et dans l'Église, je dis bien, et il y en a aussi qui peuvent se décourager et dire, bon, il n'y a pas de solution, or Dieu est la solution. Et donc le but, c'est que nous soyons forts, donc, parce que aujourd'hui, l'environnement chrétien est semé de toutes sortes de personnes. Ça amène à un désordre doctrinal et autre qui fait que beaucoup de gens, en fait, commencent à vivre leur christianisme personnel. Et ils ont décidé un christianisme, ils ont décidé une doctrine, ils vivent ça personnellement au lieu de suivre la parole. Le but de cette série d'enseignements, c'est que nous tous nous retournions à la parole, que nous menions notre vie selon la parole et non pas selon l'environnement tel que nous le constatons. Et nous avons pris quelques passages pour parler de cet environnement, notamment le fameux passage de Matthieu 13, de la parabole du blé et de l'ivraie, où il est question que le royaume de Dieu est comparé à un champ. C'est comparé à un champ où il y a le blé, mais il y a aussi l'ivraie. Donc c'est Dieu lui-même qui nous présente la chose. Et plus tard, c'est Dieu qui va séparer l'ivraie du blé, mais il permet que les deux croissent ensemble parce qu'on a voulu enlever l'ivraie par les serviteurs. Il a dit non, il faut laisser que ça croisse ensemble et un jour les anges feront, à la fin de temps, les anges feront la séparation. Donc on se rend compte que du fait que Dieu lui-même nous annonce, il nous annonce que dans son royaume, dans sa gestion des choses de la terre, il y a l'ivraie à côté du blé. Donc ça ne devrait pas nous déstabiliser. Et on a parlé d'autres passages encore où l'apôtre Pierre dirait « ces gens-là sont des fontaines sans eau ». Et d'autres passages encore où Paul parle des faux frères. Donc on voit bien que dans l'environnement chrétien, il n'y a pas que de bonnes choses, il y a aussi de mauvaises choses. On parle bien de l'environnement. Donc il y a aussi de mauvaises choses. Il y a dans ce qu'on appelle les assemblées locales, il y a de bonnes personnes comme il y a de mauvaises personnes. Et on a eu un débat long sur l'histoire de l'ivraie parce que livré, c'est quand même quelque chose qui est mauvais en soi, enfin dans sa nature, et qui ne changera plus. Alors qu'il peut y avoir des gens qui sont dans l'erreur, qui changent. Donc c'est pourquoi, après cette introduction-là où on a parlé un peu de tout, nous allons essayer de séparer les cas. Donc aujourd'hui, nous allons parler du cas. Donc on commence par le plus négatif et on va commencer par le plus négatif et puis en descendant vers le moins négatif. Et donc le plus négatif, c'est les faux serviteurs qui sont en même temps de livrer, les faux responsables, les faux conducteurs qui sont de livrer. Parce que le mardi prochain, on parlera des faux conducteurs, mais qui sont charnels, mais dont on ne sait pas à 100% s'ils sont de livrer ou pas. Donc on commence par parler de ceux vraiment qui sont de livrer, c'est-à-dire une engeance, une semence du diable et qui sont là pour nuire à l'œuvre de Dieu, qui ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix, ils ont choisi leur camp, c'est l'ennemi, et ils pensent qu'ils vont vaincre et ils nuisent ainsi à l'œuvre de Dieu. Donc ils font partie de ce qu'on appelle livrés, mais ils ont des postes de responsabilité. Donc nous prenons par exemple Jean chapitre 6. Parce que beaucoup de chrétiens ont été déstabilisés ou ont fait des mauvais choix en se disant « Mais si le pasteur il me dit quelque chose, donc c'est bon. » Non, il peut y avoir des pasteurs qui soient délivrés. Donc il peut y avoir... Oui, mais certains aussi ont été déstabilisés en disant « Mais tiens, mais comment dans une bonne église, il peut y avoir un mauvais responsable ? Dieu a laissé faire pourquoi ? » Bon, ça fait partie de ce qu'on va lire dans 2 Thessaloniciens 2. Ça fait partie du mystère de l'iniquité. Voilà, le mystère du mal. Mais Dieu nous le montre carrément dans la parabole de l'ivraie que cela est possible. Donc que l'ivraie soit dans le champ de Dieu. Voilà, c'est possible. Jean 6, verset 66 à 71. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui, avec Jésus. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Messie, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Donc on voit, parce qu'on a pris le cas de Jésus, donc le cas le plus sérieux, de celui qui voit tout, celui qui connaît tout, mais quand même qui choisit parmi les responsables un faux, qu'il appelle carrément démon. Oui. Donc c'est le premier cas.
Je ne sais plus, je crois que j'avais lu ça dans Marc, mais c'est Jésus qui parlait de Judas et qui disait qu'il valait mieux pas pour cet homme qu'il ne naisse.
Oui.
Mais est-ce qu'il a fait exprès de naître ? Il est né pour ça ? Enfin, il a été créé, il est né pour ça alors ?
Ah non, il n'est pas né pour ça. Et ça veut dire que cet homme a été face à un choix du mal et du bien. Il a choisi le mal et c'est là que Jésus dit, mais dans ce cas, il ne fallait même pas naître, quoi. Et c'est une façon de dire, pour moi je dis aux gens qui choisissent ainsi le mal, je dis mais pourquoi si vous en avez, parce que je crois que l'argument peut-être de Judas a dû être bon, je n'accepte pas la logique de Jésus, mais quand on n'accepte pas la logique de Dieu, sachant que c'est Dieu qui fait cette logique-là, pourquoi exister? Dans ce cas, il faut considérer qu'on meurt et qu'on s'offre à Dieu, on dit... Reprends ce que toi-même tu avais envoyé parce que moi je ne suis pas d'accord avec ta logique. Moi, c'est ce que je réponds aux gens qui disent « Mais la logique de Dieu n'est pas bonne. » Je dis « Mais dans ce cas, si vous trouvez que la logique de Dieu n'est pas bonne, dites à Dieu de vous reprendre. » Donc, mais finalement, ça sera quoi? Que Dieu nous reprenne. Ben, s'il nous reprend, donc on va être, lui appartenir, donc on va être à son service, finalement, c'est ça. Donc, c'est une façon de mourir, dire « Bon, Seigneur, ta logique me dépasse, je ne la trouve pas trop correcte. Je préfère que tu me reprennes. Donc, que tu fasses de moi ce que tu veux, parce que je suis déjà né. Je dois faire un choix. Mais comme on ne peut pas reculer, on ne peut pas redisparaître, non, plutôt disparaître, on ne peut plus le faire. Donc, c'est qu'on doit faire le choix de ne plus se gérer. De dire, bon, puisque c'est Dieu qui m'a déposé ici sur terre, mais qu'il gère ce qu'il a déposé. Mais donc, c'est qu'il va finir par l'histoire de le servir. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais donc, quand Jésus a voulu dire c'était mieux qu'il naisse pas, ben, c'est une supposition, mais la personne est déjà née. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire de sa vie? Puisque la vie sur terre, ou bien la logique de Dieu dégoûte une telle personne, ce qu'ils disent, pour moi, ce qu'ils disent, bon, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux, puisque c'est toi qui l'as mis, c'est toi qui l'as fait venir au monde. Donc, ce qui finira, puisque si Dieu doit faire de ta vie ce qu'il veut, ça finira par ce qui t'amène à le servir. J'attends peut-être d'autres questions, peut-être ça va permettre qu'on réponde encore. Oui.
Oui, je voulais savoir comment est-ce que quelqu'un peut être au milieu donc de la gloire de Dieu pendant tant d'années si le cœur est pas disposé pour le Seigneur. En fait, j'ai du mal à saisir comment est-ce qu'on peut rester avec quelque chose qu'on n'aime pas. Enfin, par exemple, je sais pas, admettons l'odeur du fumier, on la supporte pas parce qu'elle sent mauvaise, mais si on n'aime pas Dieu et qu'on le supporte pas, comment est-ce qu'on peut rester tant d'années dans des églises, tant d'années, par exemple, vous disiez tout à l'heure, à être responsable même, à avoir un titre quand même de berger, même si Dieu sait que ça n'en est pas un. J'ai du mal en fait à saisir cette subtilité. Je ne comprends pas comment on peut rester dans quelque chose qu'on ne supporte pas.
Ah, il y a un espoir que les choses changent. On se dit, on peut forcer les choses. Je pense que Judas était dans l'espoir que Jésus devienne violent aussi, devienne mettre toute sa puissance au service. Parce qu'on peut supposer, vous savez, il y a un mot en français, sicaire. Sicaire, c'est comme une sorte de d'homme de main. Hein. Donc, quelqu'un qui a le pouvoir, il a des sicaires autour de lui, des hommes de main, prêt à tuer pour lui, prêt à faire des mauvaises choses pour lui. Et sicaire, ça vient du mot iscariote, voilà, de Judas. Et donc, on suppose que Judas, les sicaires, c'était les zélotes. Voilà, c'était un club de juifs violents qui combattait les Romains. Et on suppose que Judas devait être un zélote qui, dans son esprit, pensait que Jésus est venu par la violence en tant que roi, vaincre les Romains. Donc il y avait un espoir qu'à la fin, Jésus se réveille enfin pour user de sa violence pour vaincre les Romains. C'est pourquoi on suppose que s'il a été pris de remords, c'est parce que, et peut-être que lui, il pensait aussi en même temps qu'en le trahissant, il allumerait cette guerre-là qui allait commencer. Peut-être Jésus allait se réveiller en chef d'armée et puis faire la guerre. Bon. Donc, c'est des suppositions. Donc Judas, quand les gens mauvais restent au milieu de la gloire de Dieu, c'est qu'ils ont une espérance que les choses changent, que finalement, ce que nous disons, nous ne tenions pas cela et qu'un jour, on fasse ce qu'eux, ils pensent. Voilà. Ils sont dans une lutte pour notre transformation.
D'accord, et j'avais une autre question par rapport à quelqu'un qui choisit le mal. Est-ce que parfois ça peut pas être, c'est peut-être lié à l'orgueil, mais est-ce qu'il se dit pas, c'est trop difficile à ma chair de faire le bien, du coup bon je reste dans le mal. Est-ce que des fois on a du mal aussi à avoir la vision de ce qui va nous arriver, la vision de l'enfer, de la mort. C'est vrai que Je veux dire, on ne se lève pas forcément. Moi, quand j'étais païenne, en tout cas, c'est quelque chose à laquelle je... La mort, je ne pensais pas. Je me disais, la mort, c'est pour les vieux, quoi. C'est quand j'aurai 90 ans, j'y penserai. Mais, et des fois, je me dis, on fait des choix, parfois parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend véritablement. Est-ce que c'est de l'orgueil ou est-ce qu'on se ment à nous-mêmes ?
On va y revenir, hein, on va y revenir là-dessus sur les gens qui sont des faux mais charnels. Donc on va y revenir, mais il peut y avoir des faux. Là aujourd'hui, on est dans le cas des faux qui sont ivrés, c'est-à-dire c'est des gens qui ne changeront jamais, mais qui sont quand même dans le royaume de Dieu, dans l'environnement chrétien, et qui ont des postes de responsabilité qui sont élevés au milieu des chrétiens. C'est possible, donc on commence par ça. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui est ivré, qui fondamentalement refuse la manière de faire de Dieu, refuse la nature de Dieu. Fondamentalement, il ne veut pas de ça. Mais il se dit, bon tiens, je reste quand même dans l'environnement, peut-être je vais changer les choses. Ou bien je vais aussi en profiter. Oui.
Mais une telle personne, dans sa logique, qui ne veut pas la logique de Dieu, quand tu restes dans l'environnement chrétien comme ça, c'est pour combattre les chrétiens, combattre la volonté de Dieu, ou pour changer...
Oui, c'est ça. Il veut changer les choses, combattre la volonté de Dieu.
Ah, d'accord. Okay.
Voilà, donc, par exemple, on nous a parlé d'un pays où, les pasteurs, ils font vraiment n'importe quoi, jusqu'à faire des équipes de football, des trucs comme ça. Mais c'est des gens qui veulent changer la façon de croire en Dieu, la façon de faire de Dieu. Ils veulent changer ça carrément. Voilà, donc voilà. Et ils veulent aussi en profiter. Ils trouvent que les gens les écoutent, les gens les aiment. Ils veulent en profiter, s'enrichir. Puisqu'on voit qu'il est dit de Judas qu'il prenait aussi de l'argent. Donc il en profitait bien de cet environnement-là. Voilà, c'est ça.
Est-ce qu'on ne peut pas comparer cette attitude à celle de Satan quand il va voir Dieu pour le narguer par rapport à Job? Un peu une attitude de défi. Est-ce que ce n'est pas aussi une attitude de mépris ou de défi de rester en fait... d'essayer de faire du mal ou de détourner, de piétiner ce que Dieu a fait.
C'est le mépris. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'acceptent pas l'amour, par exemple. Ils trouvent que les petits doivent être écrasés, les forts doivent gagner. Et qu'ils n'acceptent pas une logique où ils doivent être au même niveau que certaines personnes. Donc ils trouvent ça. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Qui trouvent ça. Que pour eux, nous sommes... Dans la jungle, il y a des lions, il y a des antilopes, et les lions sont là pour manger les antilopes. Et Jésus vient dire qu'il faut que l'antilope et le lion vivent ensemble. Eux, ils trouvent ça anormal. C'est des gens qui ont du mépris pour la façon de penser de Dieu. Ils n'acceptent pas ça. Ou on doit être considéré pareil. Il y en a des gens qui n'acceptent pas qu'on soit pareil. Pour eux, il y a des grands, il y a des petits. Voilà. Et Jésus dit non, c'est pareil. Ils n'acceptent pas. Et quand vous imaginez Jésus vient dire qu'il ne faut pas faire du mal aux colonisateurs, vous voyez, donc il a fait du mal à beaucoup de personnes. Quoi? Les Romains, avec toute la souffrance qu'ils nous font, donc on va répondre au mal par le bien. Donc ça, il y a des gens qui disent, mais non, non, cette façon-là, nous ne voulons pas de ça. Mais en même temps, ils reconnaissent, mais tiens, ça, c'est un homme de Dieu. Parce que les miracles qu'il fait, c'est un homme de Dieu. Il ne pêche pas. Il ne vole pas. Il ne demande pas l'argent. Il dit la vérité. Il guérit les malades. C'est un homme de Dieu. Mais là, il nous demande d'aimer les Romains quand même. Donc, c'est des gens qui disent, ah non, moi, je ne suis pas prêt. Ça, ce n'est pas la façon de Dieu. Je ne suis pas d'accord. D'un côté, ils reconnaissent que l'homme qui parle est de Dieu. De l'autre côté, ils ne veulent pas accepter ce qu'il dit. Voilà.
Mais comment ils ont fait pour venir à Christ si déjà à la base ils étaient ivrés? Comment ils ont fait déjà pour être touchés dans le sens où on ne naît pas chrétien? Donc comment ils ont fait pour accéder à ce pas-là, en fait, de devenir chrétien, si déjà à la base, dans leur cœur, ils étaient ivres.
Ah, mais ils ont été attirés par quelque chose, par la gloire, par les applaudissements. Ils avaient peut-être aussi des problèmes, ils ont cherché une solution. Mais fondamentalement, en eux, ils ne veulent pas du système de Dieu. Ils ne veulent pas de l'amour, de la paix, de la tranquillité, du fait qu'on ne cherche pas à être premier. Ils ne veulent pas, eux, ils veulent être premier, ils veulent être, voilà. Mais, à un moment donné, ils ont été séduits. Parce que, parfois, on a un très bon exemple. Hein, parce que là, comme on parle de responsable, Simon le magicien n'était pas un responsable. Mais quand même, on a l'exemple de Simon le magicien, qui, lui, faisait des prodiges. Mais il voit que Philippe fait des plus grands prodiges que lui. Donc il se dit, mais pourquoi ne pas aller ajouter une puissance de plus dans mon sac et faire encore de plus grands prodiges. Donc ils peuvent être séduits par un côté du christianisme et vouloir venir prendre quelque chose. Il y en a aussi qui veulent voir beaucoup de monde et s'amuser. Donc il y a plusieurs raisons. Mais fondamentalement, dans leur cœur, ils ne veulent pas du système.
Non, c'est une précision par rapport à la question de la sœur Mireille. Le diable n'a pas, dans l'histoire de Job, je ne vois pas quand le diable nargue Dieu. Donc, je n'ai pas compris en fait la question.
Il dit, quand il dit, mais enlève-lui les biens, tu vas bien voir.
Il a nargué là ?
Ah oui, oui.
D'accord.
On va voir si tiendra. Il te suit que parce que tu lui donnes des biens.
Moi, c'est défier, c'est pas narguer.
Mais oui, c'est en même temps narguer.
Est-ce qu'on peut considérer aussi les livrets comme des mercenaires ?
Pardon ?
On peut considérer les livrets comme des mercenaires ?
Il y a des gens qui sont ivrés, qui sont mercenaires à la fois, oui. Mais il y a des gens qui peuvent être mercenaires sans forcément, être une engeance du diable. Mais ils le sont devenus par amour des choses de la terre, quoi. Parce que là, nous sommes en train de parler de fils de malédiction, hein, parce que Jésus l'a appelé un démon. Donc ça veut dire. C'est des gens qui fondamentalement sont de l'ennemi, mais qui ne veulent pas de Dieu. Voilà. Mais on peut devenir mercenaire parce qu'après on a été séduit par l'argent. Voilà. Donc là, on n'est pas encore à ce niveau-là. On parlera de ce genre de personnes le mardi prochain. Nous sommes en train de parler de ceux vraiment qui fondamentalement, ils ne sont pas de Dieu. Dès le départ, il est dit, donc c'est un démon. Dès le départ, il a été choisi comme ça. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi les 12. Mais j'ai choisi un qui est un démon. Oui.
Oui, j'allais demander. Donc, ils sont vraiment du diable? Non, pas forcément.
Ah si?
Mais ils travaillent pour lui ou c'est inconscient?
En quelque sorte, on ne peut pas savoir, chacun dans un cas, mais c'est des gens qui, dans leur, fondamentalement, ils ont choisi de faire à l'opposé de Dieu. Voilà. Ils ne sont pas d'accord avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont dans les cimetières faire des incantations, voilà. Bon, après, ils peuvent recevoir plus tard. Quand est-ce que Judas, après, il y a eu l'action directe du diable dans sa vie, c'est au moment où il a trempé le pain dans la sauce. Quand il a trempé, il est écrit que le diable est entré en lui. Parce que pour trahir Jésus, il fallait quand même beaucoup de courage. Et donc c'est là que le diable vient le posséder pour lui donner cette force-là. Mais en lui-même, c'était de livrer dans le sens où il ne voulait pas du système de Dieu. Mais quand est-ce qu'il il devient vraiment élément direct du diable? C'est quand il a trempé le pain dans la sauce. Là, le diable entre en lui. Voilà. Là, il devient vraiment élément direct du diable.
Moi, je m'interroge sur... Bon, est-ce qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait des faux pour qu'on puisse reconnaître les justes et les bons? Et deuxièmement, est-ce que ça ne vient pas de la normalisation du travail, je vais dire entre guillemets, de pasteur, qui devient un boulot comme un autre? On fait des études bibliques parce que c'est une voie qui est intéressante, qui n'est bon. On n'a pas besoin d'aller à l'usine, on n'a pas besoin de. On va faire des études bibliques, on se lance dans une opération pastorale, on a un diplôme de pasteur à la fin des études bibliques et on y va. Je veux dire, il n'y a aucun appétit spirituel dans cette affaire.
Ah, là, on parlera des charnels le mardi prochain. Là, voilà. Là, par exemple, il n'y avait pas encore des écoles bibliques à l'époque de Jésus, mais par rapport au Nouveau Testament, si par rapport au côté pharisien, il y avait des écoles, toujours. Mais nous parlons de gens qui sont vraiment d'eux-mêmes, par eux-mêmes, fondamentalement mauvais, ils ne veulent pas de Dieu, mais qui accèdent au poste de responsabilité. Parce qu'un des problèmes des chrétiens aujourd'hui, il y a un camp qui se dit, mais non, mais comment il est arrivé là? Il y a un problème avec Dieu. Comment il peut laisser quelqu'un de mauvais arriver là? Et ils sont dégoûtés par l'Église. Mais il y en a aussi qui se disent, mais non, il est un homme de Dieu. Comment il peut devenir pasteur de 500 personnes si c'est Dieu qui n'a pas mis là? Alors que c'est un faux, à part ses actes. Mais ces gens disent, mais non, quand même, Dieu se sert de lui. L'Église grandit, les choses. Mais oui, mais après, il fait boire de l'essence aux gens en disant que ça va se transformer en jus d'ananas. Mais on dit, mais non, mais c'est un homme de Dieu, parce que comment il peut arriver là? Voilà. Non, il faut que les chrétiens prennent conscience qu'un faux peut accéder à des hauts postes de responsabilité par la permission de Dieu. Donc on a l'exemple direct de Judas. Donc c'est pourquoi on commence par son exemple, parce que si on parle de nous, on va dire, ah mais nous, bon, parfois il y a des choses qui peuvent nous échapper. Mais là, ça n'échappait pas à Jésus. Parce qu'il dit lui-même, c'est moi qui vous ai choisi. Vous les 12, il ne dit pas vous les 11, vous les 12, mais avec au milieu de vous un démon. Donc c'est lui-même qui a choisi. Donc comme ça, on comprend bien que ça n'a pas échappé au contrôle de Dieu. Et il le sait, mais ça fait partie de son travail. On va donner quelques éléments, mais c'est ce qu'on appelle aussi le mystère de l'iniquité. Oui.
Enfin, livré. Il n'est quand même pas condamné, enfin, je ne sais pas. C'est-à-dire, dans sa tête, il ne veut pas se repentir, il peut pas changer de voie.
Dans sa tête, il n'accepte pas la façon de Dieu. Il n'accepte pas, il n'est pas d'accord avec ça. D'accord. On a un très bon exemple de livré, c'est le riche qui s'est retrouvé dans Luc 16, dans la souffrance, alors que Lazare, le riche et Lazare, cet homme, même là-bas, Jésus lui dit, mais il y a Moïse et les prophètes. Lui dit, mais non. Donc même là-bas, il n'est pas d'accord que quelqu'un s'est converti seulement par la parole. Pour lui, il faut les miracles. Voilà. Donc il y a des gens qui sont comme ça, malgré le fait que Dieu a dit lui clairement que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. C'est des gens qui ne veulent pas. Ils se disent, non, il faut impressionner pour toucher quelqu'un. Voilà. C'est de livrer de telles personnes. Ils n'acceptent pas le système de Dieu tel que Dieu le présente. On a envoyé un texto sur Jérusalem. Bon, ça paraît, on va nous qualifier de pro-Israël. Non, mais Dieu a décidé de faire de Jérusalem une coupe pesante, une pierre pesante. Il y a des gens qui se disent chrétiens tout en détestant les Juifs ou Israël. Il y en a qui le font par ignorance, c'est pourquoi on a parlé de méconnaissance nonchalante. Donc il y a la paresse, tu ne veux pas chercher à se connaître. Mais il y a des gens, malgré le fait qu'ils ont bien lu tout ce que nous on connaît, Romains 11, Romains 9, Romains 10, ils ont lu tous ces passages où Dieu parle clairement d'Israël, mais ils décident quand même par jalousie de refuser ça parce que ce n'est pas leur peuple. Donc c'est des gens qui se délivrent. Ils ne sont pas d'accord avec Dieu, que la façon dont il a décidé de faire les choses, ils ne sont pas d'accord.
Mais comment qualifier alors les... parce qu'on dit Judas a eu des remords, donc c'était pas de vrais remords, vu qu'il s'est suicidé ou...
Les remords par rapport à sa stratégie peut-être. Peut-être d'accord. Que lui, il pensait qu'en faisant ça, quand on allait attraper Jésus, la bagarre allait commencer, Jésus allait être obligé d'entraîner le peuple comme David avait entraîné le peuple pour combattre les Romains. Donc sa stratégie de zélote n'a pas abouti. Et, voilà, il s'attendait à ce que peut-être Jésus réagisse. Mais il n'est pas le seul, parce que quand ils sont venus, Pierre a pris le couteau. Il s'attendait peut-être à là, le match commence maintenant. Donc on va sortir de l'amour, on va sortir de la foi, on va entrer dans le physique maintenant. Voilà. Donc il n'était pas le seul à attendre ce genre de truc. Voilà, il n'était pas le seul, mais lui, il attendait vraiment plus que les autres. Parce que c'est son système, il ne voulait pas du système du Seigneur. Oui.
Mais Judas, c'était vraiment un démon.
Un démon, c'est-à-dire c'est un fils du diable, ce n'est pas un esprit, c'est un humain mais un fils du diable, c'est ce que Jésus a voulu dire.
Ah d'accord, parce qu'en fait, quand Jésus il se présentait devant des gens qui étaient possédés, il commençait à trembler. Et Judas, il était 3 ans avec lui, normal comme ça.
Il n'a pas tremblé, quoi. Mais c'est ça, donc ça nous montre qu'il y a des gens qui c'est parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, mais comment se fait-il que dans l'église, mais il y a un tel qui a fait 53 ans, on ne l'a pas dévoilé. Mais oui, donc on voit qu'il y a des gens, quand Dieu ne veut pas, donc quelqu'un peut être faux et rester longtemps. Parce que c'est Dieu qui ne permet pas encore qu'on voit. C'est un exemple. Là, Jésus savait, mais les autres ne savaient pas. Ils l'ont su que plus tard. C'est ça.
Et aussi pour la stratégie là, de Judas, enfin, pourquoi il dit qu'il a livré un innocent à la mort, alors que s'il savait que... Il pensait que ça allait être un guerrier et tout.
Non, mais il s'est rendu compte que... Mais Jésus n'ayant rien fait, il est devenu un innocent. Parce que lui, il pensait qu'en faisant cet acte-là, ça c'est une supposition, hein, qu'en faisant ça, Jésus allait réagir, les anges étaient revenus, la bagarre allait commencer. Mais Jésus maintenant se fait prendre comme un agneau. Là, il regarde et dit, mais voilà, le type, il s'en va, j'ai tué quelqu'un, quoi. Donc, ça suppose que lui ne pensait pas qu'on tuerait Jésus. Vous savez, quand on a vécu ce que Jésus a fait, dire à la tempête, silence, tais-toi, ressuscité un mort, tout ça, on se dit, il est invincible. On se dit, il est invincible. C'est ça, quand on a vécu de telles choses, on se dit, bon. Nous, quand on se rappelle de certains dictateurs d'autrefois, nous, on passait des gens comme Mobutu, bon, personne ne va le tuer, il va mourir, personne ne va le chasser du pouvoir, il va mourir au pouvoir. Parce qu'on est né, il était là, on a fait l'école élémentaire, il est là, on a le bac, il est là, on fait finir l'université, il est là. Donc vous avez finalement l'impression que ça ne peut jamais bouger. C'est une impression, mais un jour, il a fui. Voilà, c'est ça. Oui, qui a le micro?
Est-ce que toi, tu compares, on ne peut pas mettre Pierre et puis Judas quand même ensemble?
On ne peut pas mettre Pierre et Judas ensemble, ça veut dire que Pierre c'est la chair.
Ah oui, d'accord.
Alors que Judas, ce n'est pas seulement la chair, il est fondamentalement opposé à la façon de Dieu de faire.
D'accord.
Donc okay. Pierre c'est une réaction charnelle, ils voulaient tous que les Romains, parce qu'on voit même malgré le fait que Jésus a agi chez un centenier romain. Jésus a délivré la fille de la femme cananéenne. Malgré tout ça, la parabole du bon samaritain, Jésus leur dit d'aller faire de toutes les nations des disciples en Matthieu 28. Mais ils n'ont pas vraiment fait ça. Il fallait Paul. Donc ça veut dire que c'était quand même charnellement des juifs qui, dans leur idée, c'était que les juifs qui étaient le peuple de Dieu. Malgré le fait que le Seigneur a voulu leur faire comprendre que ce n'était pas ça, ça. Voilà, il y a Dieu qui a un autre peuple, un autre troupeau, mais rien. Il a fallu vraiment que Paul vienne pour qu'eux prennent conscience clairement de ça. C'est la chair.
Et donc, du coup, on peut dire aussi que vraiment l'ivraie, ils sont nés ivrés. Ils sont vraiment nés ivrés ou est-ce qu'ils le deviennent quand même quelque part?
Moi, je pense que... On a deux naissances. Notre nouvelle naissance, je vais utiliser le verset qu'on a donné, ça quand, je crois, dans une des pensées de jour, dans Romains 11, voilà, Romains 11, oui, c'était le jeudi ou vendredi. Dans Romains 11, il est écrit, Dieu ne peut pas rejeter son peuple qu'il a connu d'avance. Donc ça voudrait dire que Dieu nous connaît, nous tous, d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu a eu une confrontation avec nous tous par son esprit, d'esprit à esprit. On a fait des choix. Et ces choix-là sont confirmés le jour où on nous présente Jésus. On n'accepte pas. Voilà, je crois que Dieu nous a connus d'avance dans ce sens-là. Donc je crois que les gens qui sont ivrés, c'est dans cette connaissance d'avance-là où Dieu a testé par son esprit, d'esprit à esprit, ils ont dit non à Dieu et ils finiront par dire non à Dieu quand Jésus va se présenter à eux clairement. Parce que c'est le cas du monsieur riche. Donc, quand, malgré le fait qu'il est face à Abraham, qui lui dit il y a Moïse et les prophètes, ils contestent. Donc, déjà sur terre, ils contestaient. Voilà. Ils trouvaient que, en fait, ce que les prédicateurs faisaient, tout ça, c'était léger, c'était petit. Voilà. Donc, je pense que livrer, ce n'est pas la naissance physique, mais il y a un moment de confrontation avec Dieu où quelqu'un se détermine. Et cette détermination nous est rendue visible ou bien c'est confirmé le jour où l'évangile se présente à la personne. On voit la réaction de la personne, on comprend que celui-là, vraiment, à un certain moment, il est vraiment ivré.
Pour Judas, lorsque le Seigneur parlait des douze quand il a fait le choix, il dit, c'est moi qui vous ai choisi dans le passage que nous venons de lire, l'un de vous est un démon. Est-ce que Judas était déjà confronté par rapport à ça,
ah oui,
à l'Esprit de Dieu, pour que le Seigneur le voyait déjà.
Il a été choisi comme ça. Il a été choisi parce qu'il avait déjà été trouvé ivré par Dieu. Et Dieu l'a pris parce qu'il avait un projet qu'il fallait que quelqu'un trahisse Jésus. Mais on ne va pas prendre un bon pour trahir. Donc il fallait prendre quelqu'un qui est mauvais pour trahir.
Donc quelqu'un qu'on a vu autrefois manifester, par exemple, les œuvres de l'esprit, entre guillemets, et au fil du temps, la personne, on voit la personne changer, donc il s'est camouflé, il n'était pas le plus bleu, il était déjà ivré.
Voilà, il y a des gens qui étaient ivrés, mais il y a des gens vraiment qui ont cédé aussi à la chair.
Mais quand on cède à la chair, on écoute la parole, Dieu ne peut pas nous ramener.
Non, toi, c'est ton choix. Dieu va continuer à parler, mais on a un choix.
Mais parce que le blé ne peut pas se transformer ivré, l'ivré ne peut pas se transformer blé.
Bon, c'est là que il y a une partie qui est difficile à comprendre. Donc, ça, avec cette parabole, je ne peux pas tout expliquer. Donc, il y a un moment où. Parce que quelqu'un ne peut pas se dire, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, bon, on est déterminé, c'est bloqué comme ça. Non, ce n'est pas bloqué. Celui qui aujourd'hui qui est dans le Seigneur, qui sache qu'il peut aussi perdre son salut, qui peut nier Dieu un jour. Donc c'est possible. Voilà, donc on ne peut pas fermer la porte. Mais la parabole nous donne les choses d'une manière globale. Ces paraboles-là nous parlent d'une manière générale, sans pour autant tout nous expliquer. Voilà. Donc, retenons ce qui est clair. Ce qui est clair, c'est que le choix nous est donné. Nous devons choisir. Oui.
Oui, je voulais dire. Mais pourquoi, en fait, comment ça se fait que les faux bergers, enfin les faux responsables, ils peuvent faire des miracles en fait dans le monde de Jésus, et en fait leur miracle, en fait leur puissance, ça vient du diable.
Ça vient du diable. Mais ça peut être permis spécialement par Dieu pour un but. Mais en général, ça vient du diable.
Mais en fait, après, eux, ça se trouve, ils sont du diable sans le savoir. Et en fait, ils vont croire que en fait, leur miracle, c'est vraiment Jésus qui les fait, alors que c'est le diable qui le fait.
Je ne pense pas qu'ils ne savent pas. Je pense qu'ils savent. Ils n'ont peut-être pas signé un pacte sanguin avec le diable, mais je pense qu'ils savent qu'ils sont des faux. Voilà, ils savent. Ok. Et ils peuvent, après, en voyant ces miracles-là, se dire « Oh, ça marche, ces trucs-là !» Ils prennent ça comme une sorte de blague. Voilà, ils s'amusent avec. Mais c'est des faux. Oui, qui a le micro ?
Oui, je voulais savoir. Donc, les personnes qui sont ivrées et qui travaillent à haut niveau, donc par exemple les pasteurs qui sont livrés, lorsqu'ils sont amenés, juste parce qu'ils conduisent un troupeau, donc ils emmènent les personnes dans la mauvaise direction, c'est permis par Dieu.
Oui, c'est permis par Dieu.
Mais maintenant, les personnes qui vont suivre ça, est-ce que on peut
ils sont jugés, oui.
Oui, mais sauf que on fait confiance aussi.
Ah non, Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance, oui. Mais parce que tu as rejeté la connaissance. Deutéronome 13 nous montre. Dieu dit, si un prophète vient parmi vous, il fait des miracles, il dit que telle chose doit s'accomplir, il s'accomplit. Et après, il vous dit, allons vers des faux dieux, vous devez résister parce que vous avez ma parole. J'ai permis ça pour voir si vous tenez à ma parole.
D'accord. Maintenant, voilà. Ceux qui sont amenés à imposer les mains, etc., s'ils imposent les mains, ils transmettent des mauvaises choses. Est-ce que Dieu protège par rapport à ça ?
Tout est lié à ton attachement à la parole de Dieu. Si tu es attaché à la simplicité de la parole de Dieu, à toute la parole de Dieu, tu es protégé. Mais si tu n'es pas attaché à ça, ben tu reçois les mauvaises choses. Au fait, tout ça a pour objectif de nous rappeler qu'il faut s'attacher à la parole de Dieu.
D'accord, mais je donne un exemple. Voilà. Moi, je suis chrétien nouvellement converti. Je me retrouve, peut-être pas par hasard, mais je me retrouve dans un endroit où le berger est
tu es protégé.
D'accord.
Tu es protégé. Tout ce qui est fait parce que toi, ce n'est pas ton mauvais choix, tu es protégé. Dieu te protège. Mais tu vas subir quand même des choses qui sont tout autour. Tu vas subir certaines choses sans pour autant que ça détruise ton âme. Voilà. Parce que tu es pur dans ton approche du Seigneur. Oui.
Ce qui veut dire que, si on revient à Judas, ça veut dire que pendant qu'il était avec Jésus, son esprit n'a jamais été disposé à écouter...
Non, il a toujours refusé, jusqu'au bout. D'ailleurs, il prenait l'argent pour son propre compte. Ça marche, hein?
Oui, vous dites que l'ivré n'accepte pas la logique de Dieu. Mais puisqu'ils ont des postes à responsabilité, comment est-ce que ceux qui les suivent ne peuvent pas avoir... Parce que ça se voit, quelqu'un qui n'accepte pas la logique de Dieu va forcément... à un moment donné, avoir une parole, avoir...
Ah oui, il va introduire des fausses doctrines, oui. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Ils introduisent des fausses doctrines.
Mais comment les gens les suivent? Alors moi, je ne comprends pas comment... Est-ce que les gens ne s'en rendent pas compte?
Comment ils suivent? Parce qu'ils ne lisent pas la parole. Et qu'ils n'ont pas encore accepté que la parole de Dieu a autorité sur tout. Voilà. Il faut qu'on s'habitue aujourd'hui à accepter que la parole de Dieu a autorité sur tout.
Donc là où il y a, parce que normalement l'ivraie est mélangé avec du blé.
Oui.
Donc je me dis, le blé à un moment donné, il ne prend pas conscience que celui qu'il a en face de lui...
Si le blé il est charnel, il va partir de ça. Donc c'est un appel à accepter la parole de Dieu et toute la parole. C'est un appel à cela.
Je comprends pas. Puisqu'il est blé, forcément, il a l'amour de Dieu. Forcément, il est sauvé.
Oui, mais il doit accepter à 100% la parole de Dieu. Il ne doit pas refuser certaines parties. Voilà, il y a un truc qui est essentiel, mais tout le reste doit se cultiver par l'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole.
D'accord, mais à un moment donné, il voit bien que l'ivraie qu'il a en face de lui n'est pas en accord avec la logique divine.
C'est oui, ça, en mais fait, il justifie ça par autre chose. Il va dire, ah bon, non, bon, c'est un humain.
Ah, donc il excuse.
Il excuse, mais il y a des erreurs dans ce blé-là qui fait qu'il accepte cet homme-là, qui est dans le faux. Il y a des erreurs.
Je comprends.
Non, mais il y a des erreurs. Non, mais le blé n'est pas parfait. Hein. C'est un humain. C'est un humain qui peut faire des erreurs. C'est un humain qui... Ça peut être des erreurs aussi liées à sa propre convoitise. Moi, je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont plus de pasteurs, qui n'ont plus de responsables. C'est leur convoitise. Mais ils vont utiliser des passages bibliques en disant, dans la Bible, il y a le Saint-Esprit et Jésus, ça suffit. Mais attends, c'est faux. Nous, on sait que c'est faux, c'est écrit. Il y a tant de passages qui parlent de conducteurs dans la Bible. Il y a tant de passages... Et c'est des gens qui vous diront, dès que vous faites une réunion dans une salle, ce n'est pas bon. Mais il y a tant de passages qui parlent des réunions, pas dans une maison. Rien que les premières réunions, c'était au temple. Donc, et les Paul, quand ils allaient dans des endroits, ils allaient dans les synagogues. Jésus lui-même entrait dans une synagogue. Mais il y a tant de passages qui montrent qu'ils ont prié près d'une rivière, dans tel terrain. Voilà. Mais c'est des gens... Parce qu'ils ont une convoitise, mais quand tu les rencontres, tu as l'impression qu'ils veulent que de Dieu. Mais c'est que tu ne comprends pas, mais comment ils peuvent dévier comme ça? S'ils dévient comme ça, ils ont des convoitises. Ils ne veulent pas de chef. Ils veulent être les chefs. Voilà. C'est ça la réalité. Oui, oui.
Oui, pasteur. Pour revenir un peu sur ce qu'a dit notre frère fidèle, dans 2 Thessaloniciens 2, il parle de l'apparition de l'impie, de la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité.
Voilà.
Et après, il dit que Dieu leur enverra une puissance d'égarement.
Voilà.
Donc en fait, le Seigneur, il avait tout prévu. Il avait prévu aussi pour ces faux pasteurs.
Il a prévu quoi ?
Ben, leur égarement.
Ah oui ? Qu'il y aurait des... au fait, dans leur bêtise, ils vont avoir l'impression d'être soutenus. Ils vont avoir l'impression que mais ça marche, mes bêtises. Donc c'est vraiment vrai. Et ils continuent à fond. Voilà, c'est ce qui va se passer. Il y a un jour, quelqu'un qui est venu me voir, mais je ne comprends pas, en me parlant de quelqu'un d'autre. Mais quand il était dans la vérité, il était tout le temps malade. Maintenant qu'il est dans le faux, il est guéri. Moi, j'ai dit, mais c'est ça, là. C'est ça, la puissance également. Mais maintenant, la personne, maintenant, va dans les boîtes de nuit, fait des bêtises, il n'est plus malade. Alors que quand il était dans l'église, en priant, il me dit, mais je ne comprends pas. Moi, il dit, mais c'est ça la puissance de l'égarement. C'est ça la puissance de l'égarement. Donc, il se sent soutenu dans ses bêtises. Voilà. Afin d'aller plus loin et de tomber sérieusement, quoi. Voilà.
Oui, parce qu'après, il est dit, pour qu'il croit au mensonge.
Ah ben oui, il croit au mensonge. Donc, lui, il croit que ben, j'ai perdu mon temps à l'église. Maintenant, voilà, je suis guéri en allant à la boîte de nuit. Voilà. Oh, c'est le piège.
Ah non, c'est pas ça.
Oui.
Moi, je suis, je souris parce que
par Judas,
partout en fait, parce que
on a vu qu'un seul texte jusque-là.
Mais c'est parce que, en fait, j'arrive plus à je veux pas savoir qui, voilà quoi. Mais par rapport à tout ce que t'expliques, j'essaie de me mettre un peu en situation, quoi. Savoir est-ce que j'ai déjà rencontré de l'ivraie, est-ce que j'ai déjà rencontré. Et j'ai plus.
Il faut pas faire.
Non, c'est pas ça, mais c'est pour dire. Non, je cherche pas à savoir, mais en fait, je me rappelle d'une personne. Et en fait, par rapport à ce que tu dis, je me dis, mais. Ça, est-ce qu'on est entouré autant de loups que d'ivraies? Est-ce que les loups. C'est mélangé ivraie et homme charnel et tout est mélangé.
Mais c'est ça le but de cet enseignement, le paysage chrétien, l'environnement chrétien. C'est pour nous dire que tout est mélangé. Donc il faut le savoir et vivre avec ça. Faut pas se dire parce que on voit des gens, mais on m'a pas dit bonjour, ils se fâchent. Ça, juste parce qu'on ne t'a pas dit bonjour, tu te fâches. Mais quand le faux serviteur va te manger ta jambe, là, tu vas vraiment te réveiller. Parce que, voilà, pour des petits trucs, mais comprenons que dans l'église, il y a de tout. Donc, ce n'est pas un endroit où même à l'hôpital, il y a des maladies nosocomiales. Ah, donc, des maladies que tu attrapes à l'hôpital. Alors que l'hôpital est censé te libérer de toute maladie. Donc, c'est pareil. Dans l'église, parfois, c'est là que tu vas subir quelque chose qui t'énerve. Alors que tu venais de la maison, tu étais tranquille. Donc il faut qu'on s'habitue à tout ça et qu'on demeure dans la parole, dans la vérité.
Mais oui, enfin, je suis d'accord avec toi, mais du coup, enfin voilà, nous on chante « Moi, je suis dans la joie » quand on me dit « Allons dans la maison ». C'est là, en vérité, c'est là où il y a tous les combats, quoi.
Il y a les frères et sœurs aussi.
Plus
il
que,
a pas que les combats.
À l'extérieur.
C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Quand on nous dit allant dans la maison de l'Éternel, il y a les bien-aimés qui sont là. Acte 20, puisque je profite du mot loup que tu as sorti pour qu'on lise quand même un autre passage aussi. Acte 20, 28, notre frère Paul dit ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira. Il dit même pas, hein, peut-être. Il dit je sais. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des choses, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Donc, ce qui est grave, c'est qu'il dit, je sais qu'ils viendront. Je crois que nous tous, on dit, mais pourquoi il n'est pas resté alors? Lui sait qu'à son départ, les loups vont venir, ils n'épargneront pas le troupeau. Mais ça fait partie, il y a des mouvements dans le micro. Voilà, ça fait partie du système de Dieu. Voilà, il y aura des loups qui n'épargneront pas, mais ça fait partie de l'épuration de Dieu. Ça fait partie du système de Dieu qui nous épure, qui nous rend plus forts, qui nous brise aussi. On se dit, mais je me suis fait avoir. Oui, ça fait partie de notre brisement, afin qu'on ne fasse pas confiance en la chair, mais en Dieu. Donc, il y a tout est là pour rendre les saints beaucoup plus forts et beaucoup plus parfaits encore. Voilà. Tout ça contribue à nous rendre beaucoup plus meilleurs. Ce n'est pas en vain que Dieu permet tout ça. Mais ça permet, tout ça aussi a aussi pour objectif de mettre les mauvais en contact des bons pour leur salut. C'est ça aussi l'objectif.
S'ils ne sont pas délivrés.
Non, ça regarde Dieu. Donc mais il y a l'objectif de salut de Dieu, mais comment il va sauver les hommes, les mauvais, s'il n'y a pas les bons au milieu d'eux? Voilà, donc ça aussi, donc ça fait partie des objectifs.
Mais comment on fait quand je ne sais pas si Dieu montre, si le Seigneur montre parfois, mais...
On n'a pas besoin de voir, on a besoin, nous, de marcher selon la parole. Parce
oui,
que
mais si Dieu montre, on fait quoi?
Mais on marche selon la parole. Mais Dieu, Jésus savait que Judas était mauvais. Il a marché selon la parole et l'Esprit de Dieu. C'est ce que... Voilà, parce que je donne quand même notre conclusion. On y reviendra. Notre conclusion, c'est que faire? Que faire? Ben, c'est Job 12-16 qu'on lira plus tard. C'est que Dieu maîtrise celui qui s'égare et celui qui égare d'autres. Il maîtrise tout. Donc comprenons que Dieu maîtrise cette situation-là qu'on est en train de décrire. Ça peut nous faire peur, mais Dieu maîtrise. Deuxièmement, Actes 20, 32 nous dit que je vous recommande à la parole et au Saint-Esprit. Donc, un chrétien qui suit la parole et le Saint-Esprit sera toujours préservé. Voilà, c'est ça. Et puis, Jean 10, 28, mes brebis sont dans ma main, personne ne peut les ravir de ma main. Ça, c'est la solution. Donc, revenons maintenant au problème s'il y avait d'autres questions. Oui, ça marche.
Mais en quelque sorte, ils ont péché contre le Saint-Esprit.
Est-ce que tu peux parler plus fort? Essayez de parler plus fort puisque c'est enregistré. Hein.
Mais en quelque sorte, ceux qui sont délivrés, ils sont déjà condamnés dans le sens où ils ont en quelque sorte péché contre le Saint-Esprit.
Ils ont refusé Dieu, oui. L'évidence de Dieu, ils l'ont refusé.
Donc,
ils ont péché contre le Saint-Esprit, en quelque sorte. Oui,
d'accord.
Oui, pasteur, est-ce que la multiplicité de ces faux serviteurs, ce n'est pas aussi dit par rapport au manque de vigilance de vrais que Dieu a établi, comme l'apôtre Paul dit là, qu'il fasse garde, prenez garde à vous-même et aux troupeaux que, par lesquels...
Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord.
Il y a des vrais qui... Voilà,
qui ne font pas le boulot à fond. C'est des vrais, mais qui sont dans la modération. Quand on est vrai, il faut l'être à fond. Faire les choses de Dieu à fond. C'est pourquoi on prend exemple de l'église d'Éphèse. Quand on lit ce qu'on dit d'elle, mais c'est une église parfaite. Mais elle a perdu le premier amour. Et tôt ou tard, il y aura des trucs qui vont se détruire. Donc il faut être vrai et à fond. Voilà. Et quand on n'est pas vrai à fond, on permet parce que un autre, j'abonde dans ton sens pour dire, il est conscient que quand lui il est présent, ces gens-là ont du mal. Il dit que quand lui va partir, c'est là qu'ils viendront. Donc ça veut dire que lui, vu son attachement à la parole et au Saint-Esprit, ces gens-là auront du mal à résister à sa présence. Mais il est conscient qu'à son départ, mais ça va être un autre combat, mais quand même, Dieu maîtrise. Il dit aux autres, vous, attachez-vous à la parole et au Saint-Esprit. Oui.
Oui, pasteur, je reviens sur l'ivré. Donc, par exemple, les pasteurs ivrés, eux, donc, leur sort est scellé, puisqu'ils sont livrés. Mais du coup, je pense aux autres, c'est méchant, parce que eux, leur sort est scellé et ils emmènent les autres. Ils cherchent à influencer les autres ou à conduire les autres dans le mauvais chemin. C'est méchant parce que eux, c'est scellé. Donc eux...
Mais ils sont mauvais, c'est normal qu'ils soient méchants. C'est l'histoire du scorpion qui se fait porter par la grenouille.
Oui, Par exemple, je ne sais pas si ces personnes-là sont forcément délivrées, mais quelqu'un qui servait le Seigneur et qui, après, on voit que en fait, cette personne-là était pas bien, n'était pas une bonne personne. Mais du coup, quand on l'apprend, au début, c'est pas on prie pour lui, etc. Qu'on apprend, c'est d'abord un sentiment de colère qui vient. Donc du coup, cette personne-là met des mauvaises choses. Après, on se répond, mais du premier coup, ça nous pousse à pécher. Donc c'est...
Mais maintenant, cet enseignement est là pour nous pousser à ne plus pécher quand on apprend de telles nouvelles.
Oui, mais parce que
tout a été marqué. En fait, cette série d'enseignements-là est pour nous montrer clairement que tout a été déjà dit. Donc ne vous énervez pas quand vous apprenez qu'un tel, en réalité, s'était délivré. Oui, puisque tout a été déjà dit par Jésus.
Oui,
Paul vient de nous dire qu'il est loup, cruel. Il dit même des loups cruels.
Oui, pasteur, mais sur le coup, après oui, on mais sur le coup, la chair.
Je pense que maintenant qu'on est prévenu, donc la chair ne doit plus mal réagir.
Enfin, personnellement,
Dieu nous a montré la parole que c'était prévu, c'était comme ça.
Que Dieu nous aide, parce que personnellement, pasteur, moi, sur le coup.
Mais je te donne un très bon exemple. Les apôtres, quand ils ont compris tout, puisque le Seigneur avait dit que c'est avec le Saint-Esprit qu'ils comprendront les choses plus tard. Mais quand ils ont bien compris, ils ont compris que le rôle de Judas, quel était son rôle? Ils n'étaient plus en colère vraiment contre Judas. Donc, ils ont compris que c'était son rôle.
Oui, mais après coup.
Oui, mais quand ils ont analysé les enseignements du Seigneur, les avertissements du Seigneur, à l'époque, ils ne s'en intéressaient pas. Ce n'est qu'après son départ qu'ils s'en sont intéressés. Ils ont compris, ah, mais oui, mais c'était la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, quand ils ont été persécutés, ils étaient contents parce qu'ils ont été prévenus, on vous persécutera, on vous fera ceci. Mais puisque... C'est pourquoi on fait ces enseignements, pour qu'on soit... On ne reste pas dans une logique de d'endroit où il n'y a que des coussins. Non, il y a le combat dans l'environnement chrétien, donc dans le paysage chrétien. Il y a de tout cela, mais il y a aussi les vrais frères qui sont là.
D'accord.
Voilà.
Mais enfin... C'est méchant parce que déjà, il y a pas mal de combats si on vient rajouter.
Là, on se répète, mais ils sont méchants. Toi, tu veux qu'ils fassent quoi? Mais en tant que méchants, leur boulot, c'est de faire les mauvaises choses. C'est le scorpion qui allait se noyer. Il voit une grenouille qui passe. Il dit, mais aide-moi, amène-moi au rivage. Mais la grenouille elle dit, bon, monte sur mon dos. Mais ne me pique pas, puisque si tu me piques, nous deux, nous sommes noyés. 5 mètres à peine après, le scorpion pique la grenouille. Mais la grenouille dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Je veux mourir et toi aussi tu vas mourir noyé. Il a dit, j'ai pas le choix, c'est ma nature. Voilà. C'est ça. Donc les méchants produiront que la méchanceté. C'est leur nature. C'est ça. Ok. Oui.
Est-ce que... Enfin, moi je m'interroge. Est-ce que la confusion ne vient... enfin, est-ce que toutes ces questions ne viennent pas de la confusion entre le matériel et le spirituel? C'est-à-dire que nous sommes beaucoup plus attachés au matériel, à ce que l'on voit, et on n'est pas suffisamment attaché à la parole de Dieu, qui n'est qu'une expression spirituelle. Partout, c'est que l'esprit. Il n'y a rien de matériel. Je veux dire, Jésus...
Là, tu parles aux chrétiens qui se font duper ou...
Voilà, aux chrétiens qui se font... Ils s'attachent trop peut-être au visuel. Ils ne s'attachent pas suffisamment
à la parole de Dieu.
On ne reste pas assez spirituel.
C'est la solution, c'est je vous recommande à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. C'est ce que Paul a dit.
Exactement.
C'est la solution.
Exactement. Mais je crois qu'on ne va pas vers cette dimension suffisamment.
Voilà, il faut y aller suffisamment et les choses changeront. Oui.
Mais aussi, en tout cas pour moi, je pense que les difficultés qu'on peut vivre dans le corps de Christ, elles sont bénéfiques pour quand on est confronté à l'extérieur, au monde extérieur aussi. Parce que quand on a été exercé dans l'Église avec le contrôle du Seigneur par rapport aux difficultés, quand on va être à l'extérieur, on n'aura pas la même attitude face aux mêmes difficultés. On aura un recul, on aura été exercé, et on n'aura pas comment dire, on réagira pas, on sera posé par rapport à ces difficultés. Moi, je trouve que ça a un côté bénéfique parce que, en fait, c'est un exercice, un entraînement.
Oui, mais c'est pas la même chose exactement, parce que le chrétien face à l'extérieur, il est comme préparé psychologiquement à trouver l'adversité. Ce qui, l'étrange, c'est que dans l'Église, il trouve l'adversité. Là, il est surpris et il est déstabilisé. Donc, alors qu'à l'extérieur, il est beaucoup plus préparé. Il se dit, c'est les païens, c'est les mauvais. Donc, dès le départ, il sait qu'il est envoyé comme une brebis au milieu des loups. Là, il le sait. Ça permet d'amortir un peu beaucoup de choses. Mais le grand problème aujourd'hui, surtout aujourd'hui, le grand problème, c'est de se rendre compte qu'il y a tout ça dans le corps. Dans le corps du Christ, je parle dans l'Église visible, universelle, il y a tous ces problèmes-là. Ça déstabilise beaucoup de chrétiens. Et beaucoup de chrétiens, je les ai vus déstabilisés de voir des gens gentils, après trois phrases, dire le mot « Amen et Seigneur » ou « Alléluia », mais en réalité, voir de telles personnes manifester une certaine méchanceté dans certaines parties de leur vie, une certaine jalousie, et voilà, donc un certain orgueil. Et ils sont déstabilisés. Mais comment quelqu'un qui est si gentil, accueillant, mais oui, c'est tout ça, c'est écrit. Là, on en parlera. Donc, il y a tout ça dans l'environnement chrétien. Il y a des chrétiens charnels. Il y en a. Donc, il faut qu'on accepte la réalité, parce que ce problème-là est en train de faire que beaucoup maintenant s'isolent ou bien ont perdu espoir. Ou encore suivre la fausseté parce qu'ils ont l'impression que tout est comme ça, c'est le désordre. Non, il n'y a pas le désordre. Dans le vrai corps du Christ, c'est l'ordre. L'ordre est assuré par la Bible et le Saint-Esprit. Donc il faut qu'on revienne sur ça. Oui ?
Pasteur, je rebondis par rapport à ce qu'a dit le frère Christian. Comment dire, maintenant, comment trouver la limite entre la méfiance et, entre guillemets, le manque d'amour par rapport à ce qui est visible, physique? Comment on peut faire pour ne pas tomber dans, entre la méfiance et les soupçons?
Il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons appliquer ça même envers les mauvais. Jésus, quand Judas vient le trahir, il embrasse, il dit, mais mon ami, fais ce que tu as à faire. Jésus l'appelle mon ami, fais ce que tu as à faire.
Oui, sauf
donc, donc on doit maintenant comprendre que les mauvais sont là pour nous aider à être mieux bon, à plus bon qu'avant.
Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, les actes d'amour qu'on peut manifester vers certains nous font glisser. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça.
Nous
épuise. Non, pas nous épuise, mais c'est que, en fait, on va manifester de l'amour et la personne va se servir de cet acte encore pour t'enfoncer. Je ne sais pas comment expliquer
donc
ça.
Donc, il ne faut pas faire des actes par la chair parce que je suis chrétien, il faut être guidé par l'esprit. Nous revenons toujours à ça.
Oui, maintenant, en fait...
La parole et l'esprit.
Je
si
sais pas
Dieu ne t'a pas demandé d'aller visiter quelqu'un, tu ne vas pas aller le faire parce que, en tant que chrétien, tu dois aller visiter. Ah. Donc, c'est l'esprit qui nous conduit. C'est l'esprit. Tu ne dois pas manger tout ce qu'on te donne sous prétexte qu'on peut tout sanctifier. Dieu peut vouloir aussi qu'on ne mange pas non plus. Donc tout ça, nous devons laisser l'esprit conduire au lieu de se fixer des règles. Je suis chrétien, donc je dois faire ceci. Je dois visiter tel, je dois faire cela, je dois appeler tel. Mais non, mais il faut que l'esprit conduise tout ça. Toi, c'est que tu dois vérifier Proverbe 4, 23, tu dois vérifier ton cœur. Tant que ton cœur a de l'amour, c'est bien. Maintenant, ça ne veut pas dire que forcément on doit faire des actes humains pour dire j'ai de l'amour. Non, je vérifie que mon cœur n'a pas de problème, mais comme je sais qu'il y a le danger là-bas, je me laisse conduire par le Seigneur sur ce que je dois faire. Est-ce que je visite, est-ce que je mange, est-ce que je fais ceci? Voilà.
D'accord. Est-ce que l'amour peut cohabiter avec la méfiance ou pas?
Non, la méfiance n'est pas biblique. L'amour ne soupçonne point le mal. 1 Corinthiens 13. Voilà.
Pasteur, je voulais poser une question, je ne sais pas si c'est dans le cadre de ce que nous parlons. J'ai vu dans l'Ancien Testament, Ananias et Saphira ont été foudroyés par leurs mensonges.
Nouveau Testament.
Nouveau Testament plutôt, excusez-moi. Et l'apôtre Paul a livré Alexandre et Hyménée à Satan parce qu'il méprisait les choses de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, on ne voit pas l'excommunication de faux frères? Parce que la Bible en parle aussi. Mais pourquoi ce n'est pas mis en pratique?
Non, moi je pense que c'est mis en pratique. Mais Paul, quand tu sais quand même que Paul a eu un ministère florissant, beaucoup de, il a transformé beaucoup de gens et sauvé beaucoup de gens, mais on ne parle de ces cas-là qu'il n'y a qu'environ 3 ou 4. Hein. Il y a Ananias, Saphira, c'était même pas Paul, mais en ce qui concerne Paul, il y a le fils qui avait pris la femme de son père, qu'il a livré à Satan, il a livré Hyménée à Alexandre, et puis c'est tout. Donc, alors que si on doit comparer par rapport au ministère de Paul, ça fait quand même un tout petit nombre. Je crois que ça se fait aussi de nos jours, mais sauf que le nombre est tellement petit, comme ce qu'on vient de dire, que tout le monde ne voit pas. Mais ça peut se faire aussi. Et ça se fait. Un nombre petit. Et ce n'est pas annoncé dans une lettre. C'est peut-être parce que Paul a dit ça dans une lettre qu'on a su. Mais ça peut se faire d'une autre manière. En expliquant aux gens que, bon, un tel, vraiment, il a manifesté qu'il était un instrument du diable. Et aux gens concernés. Donc il ne faut pas le considérer comme un chrétien. Ça se fait. Mais ça ne se fait. La quantité est faible. Puisque le but, c'est quand même de sauver. Mais, et puis, ça n'a pas été écrit dans une lettre. Je crois que ça doit se faire, et ça se fait aussi. Voilà, nous lisons encore un autre texte, hein, dans 2 Corinthiens 11, versets 13 à 14, 13 jusqu'à 15. C'est Paul qui dit encore, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Et dans 2 Jean 7, il est dit, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Voilà, donc nous voyons Jean et Paul prévenir. Et il y a un texte long dans 2 Pierre 2 qui nous prévient aussi. C'est pour nous dire que tous les apôtres, sans exception, ont prévenu concernant les faux apôtres. Tous. Verset 2 Pierre 2, à partir du verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. C'est dit même que plusieurs le suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. audacieux et arrogant. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Voilà ce qui est écrit. Ce sont des enfants de malédiction. Donc il y a des faux apôtres qui sont en réalité des enfants de malédiction. Ça veut dire qu'ils sont comme Judas, des démons, des gens qui ont choisi le mal et comme père, comme système de fonctionnement. Et ces gens-là vont entraîner beaucoup dans l'erreur. Et l'apôtre dit, on les reconnaît parce qu'ils renient Jésus. Ils disent, ils renient ceux qui, le maître qui les a rachetés. Donc, vous allez voir souvent dans leur comportement, Jésus n'est plus le centre. Voilà. Et il y en a qui vont même citer le nom de Jésus, mais on sent bien quand même que c'est eux-mêmes qui sont devenus le centre ou leur église. Donc dans leur fonctionnement, Jésus n'est plus le centre. On sent aussi les dérèglements, la cupidité, la débauche. Donc ils vont commencer petit à petit à instiller de doctrines qui négligent la Bible, qui mettent la Bible en troisième, quatrième position. Et tout cela doit nous réveiller et le Seigneur, l'apôtre nous dit qu'ils vont aussi se permettre d'injurier les gloires, donc d'injurier Satan, d'injurier les mauvais anges et ce que Dieu ne permet pas. Voilà, donc on a vu des gens appeler, donner des qualificatifs à Satan, l'appeler par ces qualificatifs-là, ce n'est pas Dieu qui nous demande de faire des choses comme ça. Il nous a demandé de chasser les démons, mais pas de les injurier. Et donc, quand une église commence à injurier les démons, ça veut dire que des gens qui outrepassent l'autorité que Dieu leur a donnée, il faut faire attention. Et donc, il y a des éléments que Pierre nous donne qui nous permettent de détecter, les deux éléments principaux étant la remise en question de la parole de Dieu d'une certaine manière en instillant de fausses doctrines et puis renier Jésus comme le centre de tout. Donc c'est une réalité que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit Jean, que ce soit Jude, tous les apôtres parlent de faux serviteurs, que ce soit Matthieu, dans Matthieu 24, ils parlent, ils vont faire des miracles au point de séduire s'il le faut les élus. Donc, c'est une réalité qu'il y a des faux serviteurs qui sont de livrés. Donc là, on parle de faux serviteurs ivrés, c'est-à-dire qui sont des enfants de malédiction. Ce n'est pas des gens qui sont chrétiens charnels, mais sont plutôt, dès le départ, vraiment des enfants. Quand on dit le départ, ce n'est pas la naissance physique, mais dès le départ, il y a un départ, il y a un moment donné. Ils ont choisi d'être des enfants du diable et ils vont profiter des choses de Dieu pour s'enrichir, pour faire des bêtises de plus en plus grandes, mais qui sont censés nous réveiller pour nous montrer qu'ils sont des faux apôtres. Et la clé, la question que l'on se pose, mais comment faire? On a déjà donné la réponse. Job 12, 16 nous dit ceci. Nous lisons dans Job 12, 16. Job 12, 16. Il est écrit ceci dans Job 12, 16. Il possède la force et la prudence. En parlant de Dieu, hein, il possède la force et la prudence. Donc Dieu est prudent. Donc il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare. Ou fait égarer les autres. Donc, Dieu maîtrise ces gens-là. Parce qu'on dit, quand même, ils entraînent beaucoup. Mais malgré tout, ils sont maîtrisés quand même par Dieu. Et leur fin, comme Pierre dit, leur fin sera l'image de ce qu'ils sont eux-mêmes. Dieu les maîtrise quand même. On ne peut pas se réjouir de leur mort, mais je donne un exemple de Miles Monroe. Qu'est-ce que Miles Monroe n'a pas instillé comme fausse doctrine qui ont détruit beaucoup de chrétiens? Mais quand on voit sa mort dans un petit accident d'avion, on se dit, mais quelle moquerie pour quelqu'un qui se croyait le roi du monde, mourir comme ça, un avion qui touche un appareil de chantier et ça explose. Et quelle honte, parce qu'il allait pour prêcher la parole. Voilà, mais Dieu, leur fin sera à l'image de ce qu'ils font comme bêtises. Et on a des exemples, parce que beaucoup de chrétiens aussi pleurent en disant, mais ils sont là en train de prospérer et Dieu ne fait rien maintenant. Dieu nous dit dans le texte qu'on vient de lire, leur fin sera grave. Leur fin sera grave. Et donc nous ne devons pas trembler. Dieu maîtrise la situation. Il maîtrise celui qui égare les autres. Il maîtrise la situation. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est Actes des Apôtres 20-32. Demeurer dans la parole et sous la conduite du Saint-Esprit dans tous nos actes et nous serons préservés. Donc que tous nos actes soient justifiés par la parole, que la parole soit notre doctrine. Même si Matthieu 24-24, il nous montre que ces gens-là feront des prodiges extraordinaires. Vous savez, les prodiges, ce n'est pas seulement les miracles directs. Ça, c'est le fait de remplir aussi des stades, remplir des salles, faire des bons albums de musique. C'est des prodiges, puisque beaucoup de... Il y en a qui vendent des albums au point de dépasser les gens du monde. Voilà. Donc on voit, T.D. Jakes avait fait un film... Qui est arrivé à la 10e position, film chrétien, mais qui arrive à la 10e position à Hollywood. Donc, ils vont faire des prodiges. Mais ce ne sont pas ces prodiges-là qui doivent nous dire que c'est des gens qui sont de Dieu. C'est Matthieu 24-24 nous avertit. C'est la parole de Dieu que nous devons suivre. Donc, c'est important. Même si on doit se retrouver à 3 ou 4, mais suivons la parole de Dieu. Au lieu de se dire, mais là-bas c'est le succès, mais non, c'est la parole de Dieu qui compte. Et nous avons Jean 10, 28, le Seigneur lui-même qui dit, mes brebis sont dans ma main, personne ne peut les ravir de ma main. Donc nous devons demeurer dans le Seigneur, comme c'est dit dans Jean 15, demeurer dans le Seigneur et vous n'allez pas vous faire manger. C'est ça, nous concluons cette première partie. Donc, cette partie concernant les faux serviteurs ivrés en disant ces trois choses-là, Jean 10, 28, Job 12, 16, et puis Actes des Apôtres 20, 32. Restons sur la parole, restons sur la conduite du Saint-Esprit, et nous serons vraiment tranquilles au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci de nous aider à rester sur ta parole, au nom de Jésus, que nos décisions soient inspirées par ta parole, non pas inspiré par nos visions, inspiré par les rêves, inspiré par parfois ce qu'on appelle le concours de circonstances. Même si tu utilises ces trois choses, prophétie, ces mêmes choses, prophétie, rêve, vision, concours de circonstances, mais nous savons que ton esprit est au-dessus de tout ça pour s'imposer. Seigneur, c'est pourquoi nous prions que tu nous aides à marcher à l'écoute du Saint-Esprit, même à ne pas s'inventer un christianisme personnel, mais que là où les choses ne sont pas écrites clairement dans ta parole, nous nous attendions à la puissance et à la souveraineté du Saint-Esprit pour fonctionner. Nous prions, Seigneur, que tu te manifestes, Seigneur, que tu nous aides à aimer vraiment ta parole, à considérer que même si on peut avoir les poches vides, mais que ta parole est notre puissance, notre gloire et notre richesse, à ne pas nous laisser perturber par les exploits des faux serviteurs, mais à rester dans la parole, quelles que soient les circonstances. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour nous maintenir dans ta main et nous maintenir dans la vérité. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse.